Bonjour à vous tous. Nous allons écouter la parole de Dieu et juste avant d'écouter cette lecture, je vous propose de prier. Quoi? Relève le micro. Il faut être relevé. De prier pour que l'Esprit nous dispose. Seigneur Dieu, nous venons à toi. Nous aimerions tellement te voir en chair et en os. Nous poser avec toi et discuter, parler, te serrer contre nous. Et pour l'instant, tu es dans les cieux et nous sommes là à attendre ton retour. En attendant ton retour, nous puisons dans ces écritures saintes que tu nous as laissées, tout ce dont nous avons besoin pour marcher à ta suite, persévérer dans l'attente de ton retour et être trouvés fidèles. Voilà, au moment de lire ta parole, que ton esprit nous guide. Amen.
Nous allons lire dans l'évangile de Luc au premier chapitre. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Réjouis-toi, toi qui as été rempli de la faveur de Dieu. Le Maître est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ne t'effraie pas, Marie, car tu as trouvé faveur devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, l'Éternel sauve. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Maître Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne ne sera jamais achevé. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est maintenant à son sixième mois, car aucune parole n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Un peu plus après, Marie dit : Mon âme exalte le Maître. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que celui par qui tout est possible a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa compassion s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son enfant, et comme il l'avait dit à nos pères, il s'est souvenu de sa compassion envers Abraham et sa semence pour toujours. Fin de la lecture de la parole de Dieu.
Merci Bruno pour cette belle lecture. En ce premier dimanche de l'Avent, Jaco nous a conduits à contempler la paix que Dieu vient faire en nous. Jésus, le prince de paix, vient offrir une paix unique en son genre. Et pour mieux comprendre et s'emparer de cette paix que Dieu offre en Jésus, j'ai voulu me pencher sur l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Marie habite avec son fiancé Joseph à Nazareth, en Galilée, un village totalement insignifiant qui devait avoir moins de 400 habitants, d'après les fouilles archéologiques qu'on y a conduites. Le lieu n'apparaît dans aucun écrit avant le IIe siècle, en dehors du Nouveau Testament, ce qui appuie son insignifiance. La Galilée, quant à elle, est une région éloignée du centre du pays, la capitale économique, culturelle, politique qu'est Jérusalem, loin de son temple. Les Juifs vivant en Galilée étaient considérés comme des bâtards par les habitants de la Judée, parce que leurs ancêtres s'étaient mariés avec des populations non-juives, étrangères, déportées par l'Empire assyrien il y a des siècles de cela. Et en plus, ils étaient pauvres. Joseph devait tâcher de se faire une situation de charpentier dans ce village. Il y a fort à parier qu'ils n'étaient pas forcément très instruits les deux. Bref, nous sommes très très loin de la belle figure de Marie habillée en robe de bleu voilée avec des étoffes de belle facture qu'on peut voir chez nos frères et sœurs catholiques. Elle était simple, certainement pieuse, mais elle devait se voir avant tout tout en bas de l'échelle spirituello-sociale juive. Qu'est-ce que l'Éternel pouvait bien penser d'elle ? Si nous essayons de transposer Marie à notre époque, elle habiterait certainement un petit village où les loyers sont pas trop chers. Elle et son fiancé, qui touche le SMIC, percevraient aussi les aides de l'État pour finir les fins de mois. N'ayant pas trop poussé les études, faute de moyens, elle travaillerait à droite à gauche dans des petits boulots. Joseph, lui, essaierait peut-être de continuer un commerce que son père lui avait refilé. Ils s'aiment, ils se respectent beaucoup, s'intéressent peu à la politique, mais ils persévèrent modestement dans la foi que leurs parents leur ont transmis. Des gens simples, insignifiants, diraient certains. Mais les gens insignifiants ne sont insignifiants que dans les yeux des gens importants. Ils ne sont pas insignifiants devant les yeux les plus importants du monde, les yeux de Dieu. Lui connaît Marie. Il a décidé de s'inviter d'une manière plutôt fracassante dans sa vie. Marie, tu es bénie. Tu n'as pas de la chance, parce que la chance n'a rien à voir avec ça. Tu n'as pas de mérite, parce que le mérite n'a rien à voir là-dedans. Tu es bénie. Toi, jeune fille, tu vas entrer dans le plan de salut de Dieu. Tu vas recevoir en ton sein le sauveur d'Israël, Yeshua, le fils du Très-Haut. Marie s'interroge. De quelle manière va venir l'enfant ? Légitime ? Qui doit être le père, puisque je suis techniquement pas encore mariée ? Pas de père. Mais la puissance de Dieu qui va concevoir la vie en elle. En somme, un miracle, une conception virginale. Marie accepte d'être la mère de cet enfant donné, non prévu, avec toutes les conséquences qu'elle n'envisage probablement pas de son jeune âge, pas plus qu'aucun de nous envisage les conséquences quand on devient mère ou père pour la première fois. Elle se déclare la servante du Seigneur et qu'il a tout droit de faire d'elle un instrument entre ses mains. En acceptant, Marie croit au miracle. Là où le brave prêtre Zacharie, le mari d'Élisabeth, sa cousine, avait mis en doute la parole de l'ange, Marie croit à cette conception miraculeuse et se confie en Dieu pour toute chose. Et voilà qu'elle reçoit en elle, la paix. Mais littéralement, Jésus, le prince de paix, vient en elle. Celui qui vient réconcilier l'humanité avec Dieu vient en elle. Cette paix, en elle, Marie l'a cru et l'a reçue, mais physiquement. Imaginez un instant le lien étrange qui se crée à ce moment-là entre Marie et Dieu. Marie et Dieu vont être les parents du même enfant. Marie et Dieu vont être les parents du même enfant. Alors bien sûr, elle ne va pas négocier la garde des week-ends et des vacances scolaires. C'est avec Joseph qu'elle va élever Jésus. Mais il demeure ce lien étrange. Marie fait autrement partie de la famille de Dieu. Elle fait partie de la famille de Dieu. Quel honneur, quelle grâce, quelle élévation! Il est fabuleux pour moi de voir qu'à ce moment, elle comprend qu'elle est en train d'entrer dans l'histoire, mais la grande histoire avec un H majuscule. Elle rentre dans l'histoire du salut, dans l'histoire des hommes. Elle le sait. Elle va devenir une des femmes les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Et elle le dit. Oui, dès maintenant, en tout temps, les humains me diront « bienheureuse ». Car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Elle comprend que je vais être la mère du Messie. Toutes les générations à venir me connaîtront. Je rentre dans l'histoire. Et je suis impressionné de l'humilité de Marie, qui l'empêche totalement de s'enorgueillir de ce qui lui arrive. Le juste regard qu'elle porte sur elle-même la conduit à comprendre que ce qu'elle vit, c'est une grâce, une faveur qui lui est faite, vis-à-vis de laquelle elle n'a rien, aucun mérite à mettre sur la table. Mais elle ne se flagelle pas en disant « Non, pas moi, je suis indigne, je ne mérite pas, Seigneur, comment peux-tu tourner ton regard vers moi ? Ah, blablabla. » Non. Comme on a parfois trop tendance à l'entendre chez les chrétiens. Elle n'a pas de fausse humilité pour se parer de l'apparence d'une piété. Elle prend, elle accepte, elle exulte, elle s'émerveille, elle se réjouit, elle explose de joie, mais sans s'enorgueillir. Elle dit, de tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur, mon cœur déborde de joie à cause de mon Sauveur. Elle est comme un enfant de 8 ans à qui on dit, je vais t'offrir un poney. Non mais je force l'image, mais... Les enfants savent recevoir les cadeaux. Nous, non. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, avec l'équipe biblique. Si je dis à Fred, demain, je te dépose un chèque de 250 000 euros. Il va se méfier, il va se dire, mais il ne les a pas, mais même s'il les a, pourquoi il me les file et qu'est-ce qu'il y a un truc. Puis il ne va pas accepter, non mais c'est trop, je ne peux pas, blablabla. Je dis à Manoah, demain, c'est pas vrai. Hein. Demain, je t'achète une Switch juste pour toi. La première réaction qu'il va avoir, c'est oh. Quoi ? T'es d'accord ? Parce qu'il a cette capacité justement à accepter la chose sans se poser des questions d'abord, mais à se réjouir. Et Marie fait pareil. Elle comprend. Elle comprend la portée de ce qui se passe, puisqu'elle dit « je vais rentrer dans l'histoire ». Elle dit « toutes les femmes après moi vont connaître mon nom ». Donc elle mesure ce qui est en train de se passer. D'accord ? Et sa réaction c'est oh, « la joie, simple ». Elle rentre dans l'histoire, elle se réjouit. Troisième chose, par sa foi, c'est-à-dire par sa confiance, par la manière dont elle pense que Dieu est. Et peut-être avec un petit coup de pouce de l'Esprit-Saint aussi. Elle exprime, elle comprend, elle dit que, en fait, c'est trop typique de son Dieu de faire ce genre de faveur à des gens comme elle. Elle chante, elle loue ce Dieu qui abaisse les orgueilleux, qui les confronte, qui leur met des stops, les prétentieux, les tyrans, les dominateurs, mais un Dieu qui élève les humbles, les simples, qui choisit celui, attention pour vous, du rang du fond qu'on ne voit jamais. Je vous préviens. Et il les fait monter au sommet des nuages. Elle dit, hein, il a montré son pouvoir en déployant sa force, son bras. Il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants des trônes. Il a élevé les humbles au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches les mains vides. Bref, Marie reçoit le Messie en elle, l'élu tant attendu depuis des siècles par son peuple. J'étais au loto de l'école Roujon la semaine dernière, dans la salle Bizet, pleine, 200 personnes. Je me suis dit, bon, ils achètent en moyenne 6 grilles par personne pour tenter de gagner 12 lots. Soit 1% de chance de gagner par grille. C'est déjà pas beaucoup, hein. Bon, si on prend 6 grilles, ça fait un peu plus. Mais Marie fait partie des millions de femmes qui ont vécu depuis le retour de l'exil. Et c'est sur elle que tombe le choix de Dieu d'accoucher du Sauveur. Déjà qu'on serait surpris de gagner une quine au loto de l'école. Mais alors, être la mère de l'élu par Dieu, alors que ça fait des siècles qu'on n'entendait plus parler un seul prophète. Marie a dû se sentir incroyablement bénie, chérie, choisie, aimée. Et cela a dû la plonger dans une paix incroyable, dans sa relation avec Dieu, je veux dire. Admettons que elle se soit dite « Dieu m'a choisie parce que je, ceci ou parce que je cela ». Alors, à mon avis, recevoir cet enfant aurait mis sur elle une pression incroyable. Parce que vous savez, si Dieu m'a choisi parce que ceci, alors j'ai intérêt à continuer à réussir à... Parce que si j'échoue, le choix de Dieu, c'était le mauvais. Mais non, Dieu l'a choisi contre toute attente. Un choix à la façon de Dieu, de l'Éternel, qui prend les petits derniers, qui visite les veuves perdues dans la pampa avec ses prophètes, qui prend des esclaves emprisonnés pour en faire des princes d'Égypte, qui suscite des super prophètes à travers les femmes stériles. C'est ça notre Dieu. Alors Noël, c'est Jésus qui vient, il rejoint son peuple, déboussolé, captif de chefs religieux et politiques qui le déchirent par leur quête de pouvoir. Il rejoint l'humanité qui tâtonne dans les ténèbres. Il vous rejoint, vous, maintenant, aujourd'hui. Comme Marie s'est découverte, liée à la famille du Créateur, liée à l'histoire du salut du monde, vous aussi, en fait, Jésus vous rejoint et vous veut dans sa famille. Et il veut vous impliquer dans l'histoire du salut du monde. Certainement, nous n'allons pas accueillir le Fils de Dieu en notre sein pour le mettre au monde comme Marie, notre grande sœur en Christ, bien-aimée. Mais c'est tout de même Dieu qui vient en nous par son Esprit. La présence divine veut prendre place dans votre vie, si ce n'est pas déjà le cas. Je parle sérieusement. Dieu donne son esprit à celui qui le reçoit. Et j'ajoute, comme Marie. comme Manoa avec la Switch. Sans chercher les comment, mais pourquoi, mais suis-je assez digne, suis-je assez bien? Ai-je fait assez? Vais-je réussir à faire assez? Jaco nous l'a rappelé, quand Dieu nous dit « Je t'aime », il connaît le passé de notre vie, il connaît le présent de notre vie, il connaît le futur de notre vie. Donc il nous aime en toute connaissance de cause. Et quand il veut s'inviter dans ma vie, c'est illusoire de croire que je peux le décevoir. Il sait déjà tout de moi. Dieu nous offre son esprit. Nous n'allons pas accoucher de Christ, mais cet esprit va accoucher d'un nouveau vous-même, un vous-même transformé. Marie accouche de Christ, le Sauveur du monde, pour bénir et sauver le monde. L'Esprit forme en vous un nouveau vous pour participer au salut et à la bénédiction du monde. Alors, non, on n'est pas des candidats idéaux. Non, on n'est pas dignes, idéaux, pardon, pour ce genre de mission. Mais c'est tout le style de Dieu, ça. Dieu ne recrute pas les meilleurs des meilleurs. Il aime choisir des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Oui, je continue de pécher, de désobéir, malgré le fait que l'Esprit de Dieu est déjà en moi, parce que je peine à croire, à réaliser, à vivre, à m'emparer de ce qui m'a déjà été donné. Mais ce matin, Marie nous aide à comprendre que ce qui nous arrive, c'est ce qui lui est arrivé à elle aussi. Marie nous aide à réaliser, à comprendre. Je rentre dans la grande histoire. Et il n'y a pas d'erreur de casting. Dieu est sûr de son coup, en te choisissant, en s'installant dans ta vie. C'est vrai. Et Dieu assume que tu fais partie de sa famille. Nous sommes habités par Dieu. Alors, c'est la paix. C'est la paix. Il va nous arriver plein de choses, des épreuves, des deuils, des maladies, des disputes, des temps de pauvreté, d'incertitude de l'avenir. Ce n'est pas parce que Dieu s'est invité dans votre vie que vous échapperez à cela, mais dans toutes ces choses, vous aurez la paix de Dieu et je vous encourage de toutes mes forces à ne jamais laisser qui que ce soit vous la dérober. Ou vous faire croire que Dieu vous la reprendrait pour X ou Y raison, parce que celui qui vous dit ça est un menteur. Car il nous aime. Il nous aime au point de faire ce miracle. Je viens vivre en vous. Vous connaissez l'émission « J'irai dormir chez vous ». C'est un gars qui part en road trip et le soir il s'invite à dormir chez le premier qui peut et il se trouve dans des situations incroyables. Notre Dieu, il veut dormir chez nous, dans notre vie, dans toutes ces chouettes choses qu'on vit dans nos cœurs, puis tous ces coins sombres qu'on veut montrer à personne. Et entre vous et moi, il les connaît déjà, donc ça va, il ne sera pas choqué. Je viens vivre en vous, je viens bénir le monde par vous, je viens sauver le monde à travers vous. Que reste-t-il à dire et à faire? La joie, c'est de ouf, comme diraient les jeunes, trop stylé,
Abandonnons ces questions qui nous bloquent. Est-ce vrai? Est-ce possible? Est-ce juste? Suis-je la bonne personne? Marie ne se les a pas posées. Elle n'a pas regardé un regard sur elle-même. Elle a regardé à Dieu.
Marie, je vais faire de toi mon enfant, enfin la mère du Sauveur. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas regardé à elle. Elle a regardé à Dieu.
Je viens sauver le monde à travers vous. Et elle s'est confiée en cette parole. Ok, tu l'as dit, tu le fais,
tu vas le faire.
La nativité de Jésus, cette venue au monde en Marie, l'attitude de cette jeune fille est en soi une formidable illustration de ce que Dieu veut faire en nous par sa vie. Puissions-nous accueillir ce miracle avec toute la joie et la simplicité d'un enfant de 6 ans à qui on dit « Je t'offre un poney ou une moto volante ». L'émerveillement, la joie, la confiance. Je suis le servant, la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Amen.